Radio Kapi.
Oh, Kapi.
D'abord, les titres de ces journaux. La nomination de Judith Nsoumi-Noi au poste de Premier ministre suscite encore des réactions des Congolais. Nous en parlons amplement dans ce journal. Un ressortissant chinois responsable d'une entreprise minière basée à Kambov, dans les Haut-Katanga, a été abattu hier lundi par des hommes en armes et en uniforme non autrement identifiés. Journée internationale de la désinformation célébrée ce mardi 2 avril à travers le monde pour mettre en avant l'importance de la vérification face à la prolifération et la propagation des fausses nouvelles. Cette célébration coïncide en RDC avec la publication de l'ouvrage intitulé « Pollution de l'information fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo ». Bonjour, Judith Nsoumi-Noi Tuluka, c'est le nom de la première ministre de la RDC depuis l'annonce hier de la nomination de la première femme à ses postes de responsabilité. Les réactions fusent de partout. Il en sera largement question dans ce journal. Le gouvernement congolais devrait prioriser dans son programme d'action le respect du principe constitutionnel de retenue à la source des 40% de recettes à caractère national. C'est conformément à l'article 175 de la Constitution. Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, qui l'est dit, estime qu'aucun développement n'est possible si les provinces sont privées des moyens de leur politique. Pour sa part, le coordonnateur du bureau des liaisons du Parlement avec la CENCO affirme que l'article 175 de la Constitution doit désormais être respecté pour permettre aux provinces et entités territoriales décentralisées de se développer. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Saluant la nomination d'une dame au poste de Premier ministre, le coordonnateur du BLP CENCO souhaite voir le prochain gouvernement privilégier dans son action le bien-être de la population et le développement local en mettant en œuvre le principe constitutionnel des retenues à la source des 40% des recettes à caractère national. Jean-Paul Moulianga.
L'intention de l'article 175 était de renforcer l'autonomie financière des provinces pour leur permettre de disposer des recettes à caractère national afin d'assurer le développement local dans leurs entités territoriales décentralisées. Nous voyons que la population ne bénéficie pas.
Pour le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, plusieurs programmes de développement sont restés lettres mortes, faute des moyens. Cyril Kimpouawel.
Avec la rétrocession qui est irrégulière d'ailleurs, on ne saura pas lancer des vastes projets de développement, d'autant plus que cette rétrocession, on ne sait pas sur quelle base elle se calcule, elle est insignifiante et elle viole même les dispositions de l'article 175 de la Constitution.
Cyril Kimpouawel invite donc le prochain gouvernement à respecter la retenue à la source des 40% tout en veillant efficacement au contrôle des gestions rigoureuses des finances publiques au niveau des provinces.
Après la nomination de la première ministre, quelle est la suite des événements et à quand l'investiture du gouvernement? Tentative de réponse dans ces papiers de Michel Kifindangoy, rendu par Cynthia Bachizina Bizana.
Tout d'abord, la première ministre Judith Nsoumi-Noi Tuluka procédera par la formation de son gouvernement qui devra tenir compte de la représentativité nationale en vertu de l'article 90 de la Constitution. Ensuite, le gouvernement définira en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assumera la responsabilité devant l'Assemblée nationale conformément à l'article 91 de la Constitution. Après élaboration du plan d'action de son gouvernement décliné sur les programmes gouvernementaux, la première ministre présentera à l'Assemblée nationale le dit programme qui sera soumis au débat. Et enfin, viendra l'étape de l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale après débat autour de son programme. Le gouvernement ne peut entrer en fonction que lorsque son programme est approuvé à la majorité absolue des députés conformément à l'article 90 de la Constitution. Notez toutefois qu'il existe un autre préalable majeur pour que le gouvernement soit investi à l'Assemblée nationale, c'est le vote et l'installation du bureau définitif de la chambre basse du Parlement, car le bureau provisoire en place actuellement n'a pas qualité en vertu de l'article 114 de la Constitution d'investir le gouvernement.
Comme vous le savez certainement, Judith Nsoumi-Nwa-Tuluka est ressortissante de la province du Congo central. D'où vient cette première réaction? Les cadres des concertations de la société civile du Congo central à travers son comité des sages veut que la toute première femme nommée premier ministre de la RDC suive les pas de loyauté, de l'honnêteté et de la transparence de feu Joseph Kasavubu, premier président du Congo belge. C'est l'une des recommandations formulées par cette structure. Le président du comité des sages de cette organisation qui remercie le chef de l'État pour avoir honoré le peuple Mukongo qu'il a voté massivement le 20 décembre dernier, indique qu'à travers les travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires qu'elle a piloté comme ministre d'État en charge du plan, Judith Nsoumi-Nwa-Tuluka a prouvé à suffisance ses compétences et sa volonté de développer la RDC. Suivez Fidèle Mwanda Mikiama dans ses propos recueillis par Nana Pluriche Mambou.
La nomination de Madame Judith Nsoumi-Tuluka Nsoumi-Nwa est un sujet de grande joie pour la province du Congo central parce que depuis longtemps, on a toujours voté pour l'opposition, mais en décembre 2021, on a voté avec une majorité écrasante le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Et aussi pour la première fois, une dame peut diriger le gouvernement central. Ceci prouve à suffisance que la masculinité positive toujours prônée par notre président de la République vaut son pesant d'or et il est concret pour ça. Cette femme qui a prouvé quand même ses valeurs et sa façon de travailler à travers le 145 territoires, c'est un travail qu'il a fait à travers le président de la République. Aujourd'hui, au moins dans chaque territoire, on a un centre de santé ou une école qui montrait que l'État existait et il était avec nous. Oui, nous recommandons à Madame Judith Nsoumi-Tuluka Nsoumi-Nwa, son Excellence, Premier ministre, d'être dans les pas de la loyauté, de l'honnêteté et de la transparence de Joseph Kasavubu. Qu'elle se fasse entourer de personnes imbibées de la conscience sociale. Et nous sommes très fiers parce qu'elle a toujours été dans le règne de la notabilité Congo. Et c'est une femme vraiment qui porte le valeur Congo. Et nous sommes aussi qui fait un bon travail.
Au Kasaï central, les femmes affirment que la nomination d'une femme comme premier ministre est le fruit de la lutte pour la masculinité positive afin de l'émergence des femmes, déclare la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral, FMMDI, l'appelant à travailler pour l'intérêt de tous. Nathalie Kambala assure que toutes les femmes sont engagées à accompagner la nouvelle patronne du gouvernement pour la réussite et le développement du pays. Les propos de Nathalie sont ici recueillis par François Kadima.
Je pense que Madame Judith, ministre du Plan, elle a prouvé à la face du monde son talent et ses compétences dans l'exercice de ses fonctions. Voilà pourquoi aujourd'hui elle est promue. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est de se démarquer de ses prédécesseurs et de mettre au centre de l'action de son futur gouvernement l'intérêt supérieur de la population et aussi mettre autour de la table tout le monde pour l'émergence de notre pays. Nous savons que le pays traverse un moment difficile. À l'Est, nous demandons avec son avènement à la tête de ce gouvernement si la guerre peut s'arrêter définitivement. Nous lui promettons notre soutien indéfectible. Toutes les femmes vont se mobiliser pour l'accompagner, pour la réussite de son mandat. Combien exceptionnel et louable sagesse, intelligence dans l'exercice de ce mandat.
L'accès aux soins de santé pour les femmes déplacées enceintes est l'un des principaux problèmes auxquels elles sont confrontées dans les sites de l'ISP Bounia à Ituri. Elles l'ont dit ce mardi après la nomination par le président de la République d'une femme au poste du premier ministre de la République. Et c'est une première. Selon la présidente des femmes de ces sites, le choix d'une femme à cette haute fonction pourrait contribuer à apporter une solution aux multiples difficultés qu'elles traversent. Les points avec Ezekiel Mouzali.
Les conditions de vie des femmes déplacées du site de l'ISP Bounia restent très difficiles, notamment à cause de l'absence d'aides humanitaires et des difficultés d'accès aux soins de santé, ce qui fait grimper les taux de mortalité maternelle et infantile dans ces sites. Selon le comité de gestion des déplacés, qui l'a dit ce mardi au lendemain de la nomination par le président de la République d'une femme au poste de premier ministre, de nombreux déplacés vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il manque de vivres, d'installations sanitaires, des kits hygiéniques, mais aussi d'abris dont la plupart sont dégradés. Emerance Madassi, présidente des femmes du site des déplacés de l'ISP, dit avoir constaté un nombre accru de femmes qui parfois accouchent dans leur maison de fortune, faute des moyens de se rendre à l'hôpital. Cette situation, qui par ailleurs est générale dans d'autres sites en province, mérite une attention particulière du nouveau gouvernement de la République, qui désormais avec à sa tête une femme.
La vie des femmes de site est devenue très difficile. Les camps des malnutritionnés s'augmentent dans notre site. On a espoir du toujours avec les femmes parce que les femmes ont toujours le souci de faire quelque chose.
L'Ituri compte à ces jours plus d'1 900 000 déplacés, en majorité des femmes installées dans 64 sites selon le rapport des humanitaires. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent au Sud Kivu, où les animateurs politiques sont invités à cultiver l'esprit de patriotisme, de démocratie, de bonne gouvernance, de collaboration, d'ouverture, d'écoute, d'acceptation mutuelle, de tolérance, de transparence et de respect de règles. C'est ce qu'ont déclaré ce lundi 1er avril le membre des confessions religieuses du Sud Kivu. C'était dans le cadre de la conférence de la plateforme CIM, Commission d'intégrité de médias. Médiation électorale à l'hôtel résidence de Bukavu. Conscients de leurs responsabilités, ces derniers ont donné leurs recommandations sur les profils des prochains animateurs politiques en province, notamment les gouverneurs et les sénateurs. Monseigneur Lévi Ngangura Munyanya, porte-parole de la CIM, dans cet extrait choisi par Rachel Kiesembangu.
Aux candidats gouverneurs et sénateurs, présenter une vision politique. Un programme détaillé qui réponde aux vrais problèmes de la province du Sud Kivu, éviter les discours de haine et de division lors de la campagne et des élections en présentant plutôt une stratégie claire, réaliste et réalisable de la mise en œuvre de son programme d'action. Cultiver l'esprit de patriotisme, de démocratie, de bonne gouvernance, de collaboration, d'ouverture, d'écoute, d'acceptation mutuelle, de tolérance, de responsabilité, de transparence, de respect des règles, d'intérêt général et de développement aux députés provinciaux. Répondre à la volonté de la population qui a placé confiance en eux en votant en toute responsabilité et indépendance les futurs sénateurs et les gouverneurs sur base d'un programme, d'une vision pour la province et d'un critérium objectivement soutenable.
Je le disais au sommaire, un ressortissant chinois responsable d'une entreprise minière basée à Kambove dans les Haut-Katanga a été abattu hier lundi par des hommes en armes et en uniforme non autrement identifiés. Une situation qui plonge la communauté chinoise dans la consternation car l'illustre disparu jouait un grand rôle en son sein. Jean Gandou.
Les faits se sont produits ce lundi peu avant 8h, rapportent nos sources. Cet homme était à bord de sa voiture avec sa femme, son chauffeur et un autre passager. Il partait de Likasi vers la cité minière de Kambove, située à près d'une trentaine de kilomètres. Arrivé à un endroit où passent les rails à Kakontwe, le chauffeur a ralenti pour bien négocier le passage. C'est alors que des individus en uniforme des militaires ont surgi et se sont plantés devant les véhicules. L'un d'eux a brisé la vitre au moyen d'une grosse pierre et s'est emparé d'un sac contenant une grosse somme d'argent. Le Chinois est descendu de son véhicule pour les pourchasser. Un des assaillants qui était armé a ouvert le feu sur lui et l'a atteint en pleine poitrine. Ce Chinois est tombé et a succombé sur place. Pendant ce temps, les assaillants ont disparu dans la nature. D'après le maire de Likasi qui confirme cette version des faits, pour l'heure, tous les autres passagers dont la femme de la victime sont détenus au cachot de l'auditeur militaire de Likasi pendant que les enquêtes sont en cours. À noter que d'après nos sources, ce Chinois est l'un des bailleurs de fonds de la communauté chinoise installée à Likasi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des détonations d'armes lourdes ont été entendues dans la matinée ce mardi autour de la cité de Sake et de la Ruindi, informent quelques sources. Elles parlent notamment de l'axe Sake-Mushaki en territoire de Masisi et de l'axe Ruindi-Kanyabayonga au nord du territoire de Rutshuru. Ces sources ne fournissent pas plus de détails sur ces accrochages qui, selon elles, opposent les FRDC et les groupes armés aux rebelles du M23. Déjà hier lundi, certaines sources parlaient d'une avancée des groupes armés locaux qui auraient récupéré les collines Bwambaliro, Vunano et Mianzikimoka. C'est à l'issue des combats contre le M23 sur les axes Sake-Kirotue et Sake-Kichanga. Les Ruindi, selon ses sources, est toujours occupée par les rebelles du M23. Autre nouvelle, Journée internationale de la désinformation célébrée ce mardi 2 avril à travers le monde pour mettre en avant l'importance de la vérification face à la prolifération et la propagation des fausses nouvelles. Cette célébration coïncide en RDC avec la publication de l'ouvrage intitulé « Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo ». D'après son auteur, Patien Ligodi, journaliste et spécialiste de la désinformation, cet ouvrage fait l'état des lieux de la manipulation de l'information en République démocratique du Congo et dans le monde. Il propose aussi des mécanismes permettant de combattre les fléaux de la désinformation, des mécanismes adaptés selon lui aux différents canaux de propagation de fake news. Patien Ligodi, directeur des publications de actualité.cd et spécialiste de la désinformation, joint par René Capita.
Plusieurs manifestations de la manipulation, de la pollution de l'information se remarquent à travers le monde. Par exemple, pour nous, nous avons la guerre hybride que mène la RDC avec le Rwanda et cela produit également une pollution de l'information de part et d'autre. Comment arrivons-nous à faire en sorte que la population congolaise puisse trouver des réponses à des questions qui nécessitent notamment un traitement qui permettrait d'avoir une information de qualité. Il y a également la question de l'infodémie. Vous savez que les épidémies en République démocratique du Congo charrient également beaucoup de fake news et des rumeurs. Alors, dans cet ouvrage, on essaie de faire l'état des lieux, de voir quelles sont les réponses qui ont été données dans le monde, quelles sont les réponses qui sont données au Congo et quelles sont les réponses qui sont adaptées à nos réalités. Le travail à faire nécessite une collaboration, une coopération, une régulation, mais aussi et surtout une coopération entre les instances.
Actualité internationale.
Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye prête serment ce mardi 2 avril. Cette cérémonie symbolise pour de nombreux Sénégalais l'espoir d'un changement, mais surtout d'une rupture avec le régime des Macky Sall. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président élu au Sénégal, est officiellement le cinquième président du pays.
L'invité.
Notre invité s'appelle Joseph Moudimbi. Il est professeur au département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. D'après lui, la première ministre a toutes les chances de réussir à condition qu'elle soit placée dans un environnement susceptible de lui permettre de bien mener ses actions. Joseph Moudimbi s'entretient avec Jean Gandou.
Joseph Moudimbi, bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État vient de nommer une dame à la tête du gouvernement. Est-ce une bonne chose?
D'entrée de jeu, nous pouvons dire que c'est une bonne chose parce que là, on donne la chance aussi aux femmes de montrer de quoi elles peuvent être capables. Vous vous souviendrez que le président de la République a toujours prôné la promotion de la femme. Et je pense que ici, c'est une illustration éloquente de ses voeux de voir aussi les femmes émerger dans les différentes branches de leur activité.
Pensez-vous que dans les jours à venir, elle pourra relever les défis du développement, de la sécurité et autres?
Relever les défis dépend d'un certain nombre de facteurs. Au premier rang desquels, nous pouvons d'abord citer les budgets. Comme vous le savez, je soutiens cela que sans moyens, il n'y a pas moyen. La République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs problèmes et dans les différents secteurs. Tous ces problèmes-là sont prioritaires. Mais quand vous regardez les budgets qui est le nôtre, ce budget ne pourra pas permettre à ce qu'elle soit en mesure de résoudre tous les différents problèmes qui sont prioritaires et dans les différents secteurs. Mais comme elle a œuvré au ministère du Plan, je pense qu'elle pourra voir quels sont les secteurs qui sont beaucoup plus prioritaires et commencer d'abord à agir dans ces secteurs avec espoir que lorsque ces secteurs seront relevés, ça pourrait aussi impacter d'autres. Alors ça, c'est un problème. Donc le budget, je ne pense pas qu'il puisse vraiment lui permettre de faire mieux selon les attentes de la population. Deuxième élément, c'est pratiquement le laxisme que nous avons observé avec le gouvernement précédent. Donc si elle peut réussir, il faudrait que ce soit vraiment un gouvernement des véritables ruptures avec le gouvernement précédent.
Sur quel plan concrètement?
D'abord, je parle au niveau de l'impunité. Vous allez vous rendre compte que l'appréhension de la population par rapport à ceux qui gouvernent, on sentait qu'ils voient beaucoup plus leurs avantages que l'intérêt de la population. Le slogan « Le peuple d'abord », je pense qu'il n'a de contenu que par rapport aux gouvernants. Mais quand vous posez la question au peuple, est-ce que réellement vous avez vécu le peuple d'abord, il vous dira que c'est un slogan creux. Comme elle vient de l'UDPS, nous pensons qu'elle va vraiment s'insérer dans la dynamique et la vision du président de la République. Il vous souviendra que le président de la République, dans le contexte congolais, c'est la seule autorité officielle élue par l'ensemble des citoyens congolais. Donc, lui, au moins, a été élu sur base d'un programme qu'il a présenté à la population. Alors, le fait qu'elle soit de l'UDPS, on peut dire que c'est vraiment un atout majeur parce que là, on va conjuguer les efforts, on va regarder dans la même direction, de sorte à ne pas entraver les actions du président de la République. Nous pensons que ça peut être un atout majeur. Mais les budgets, le laxisme, le système lui-même peut constituer des entraves à son action.
Pensez-vous qu'aussi au sein du gouvernement qu'elle aura à former, on y trouvait des chefs des partis politiques qui ont pignon sur rue? Ces gens-là ne pourraient pas gêner ces actions?
Tout dépend de la manière dont on va définir le système. Comme vous le savez, le système veut se pérenniser, le système veut se maintenir. Alors, s'il y a des éléments qui sont de nature à gêner l'action du système, alors, au nom du principe homéostasique, et ces éléments gênants-là, on pourrait peut-être les mettre dehors pour que le système se maintienne et fonctionne normalement. Mais ce sera vraiment aussi difficile pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, pour que le président de la République gagne les élections, ça n'a pas été seulement l'effort que de l'UDPS. Donc, il y a eu aussi d'autres partis qui se sont soudés les coudes pour arriver à ces résultats-là. Alors, ce n'est pas par le revers de la main que ces gens-là, on pourra vraiment les écarter au cas où ils ne jouaient pas franc jeu. Mais je pense qu'ici, il est question seulement de donner un leadership agissant et de fédérer vraiment l'adhésion de ces caciques des différents partis politiques pour qu'on regarde dans la même vision. Je pense que ça peut aller. Mais cela n'est possible que lorsque les uns les autres trouvent aussi que leurs intérêts sont suffisamment garantis. Mais lorsque il y a des partis qui vont se sentir un peu trahis, vexés, je pense qu'ils pourront lui jeter des pots de banane et la chose ne sera plus aisée.
Enfin, aura-t-elle le coup de franche pour bien mener ses actes?
Je pense que comme elle a le soutien du président de la République, je pense que cela est possible.
Professeur Joseph Modimbi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour la confiance nous accordée.
Et c'est par ici que je mets un point final à cette session d'actualité des midi sur Radio Okapi. Alain Goy a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Pele Kipelamondo et Élisée Tchikota. Au micro, Patience Ngalula Banangi. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.